Merci d'écouter RFI. 8h à Washington, il est 14h ici à Paris.
RFI Midi.
Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain avec le Venezuela à la une. Nicolas Maduro doit prêter serment aujourd'hui pour un troisième mandat contesté. Son rival, l'opposant Edmundo González Urrutia, avait promis de rentrer d'exil pour l'occasion. Nous appellerons notre correspondante à Caracas. Dans quelques minutes, on parlera aussi de ces incendies majeurs qui continuent à Los Angeles aux États-Unis. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, en Martinique, on parle bien toujours d'un protocole de lutte contre la vie chère.
Invité de la première Martinique ce matin, le préfet s'est voulu très clair. L'État a pris un engagement et il le tiendra, malgré les changements de gouvernement et de ministre. Nous entendrons tout à l'heure Jean-Christophe Bouvier.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Et tout de suite le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Anne et bonjour à vous qui nous écoutez.
On commence donc par le Venezuela, journée sous tension. Nicolas Maduro prête serment tout à l'heure pour un troisième mandat.
Hier, l'opposition manifestait dans les rues de Caracas. La liberté ne se mendie pas, elle se conquiert, scandaient les milliers de personnes réunies dans la capitale. Edmundo González Urrutia revendique toujours la victoire à la présidentielle de juillet dernier. Il dénonce des fraudes dans le scrutin et il n'est pas le seul, Christophe Paget, puisque de nombreux pays en Amérique latine et en Europe estiment eux aussi qu'il a remporté la présidentielle. Certains le reconnaissent même comme président élu.
Une bande de guignols fascistes. C'est de cette manière que Nicolas Maduro a qualifié, au début du mois d'août dernier, l'Équateur, l'Argentine, l'Uruguay, le Costa Rica et le Panama, qui, dans la foulée des États-Unis et du Pérou, venaient de reconnaître la victoire de l'opposant Edmundo González Urrutia. Au lendemain de l'élection, ils avaient déjà demandé un réexamen complet des résultats, aux côtés de quatre autres pays de la région, Guatemala, Paraguay, République dominicaine et Pérou. Les accusant d'ingérence, le gouvernement vénézuélien avait immédiatement retiré son personnel de 7 pays latino-américains. Il a aussi totalement rompu ses relations diplomatiques avec d'abord le Pérou, ensuite l'Argentine et, plus récemment, le Paraguay et le Chili. De leur côté, le Brésil, le Mexique et la Colombie, qui ont d'ordinaire de bonnes relations avec le régime chaviste, ont tenté une ligne médiane. Sans reconnaître la victoire d'Edmundo González Urrutia, ils ont quand même demandé une vérification impartiale des résultats. En Europe, en septembre, l'Espagne a accordé l'asile politique à l'opposant et le Parlement espagnol a voté une résolution le reconnaissant comme président du Venezuela. Ce qu'a fait quelques jours plus tard le Parlement européen, suivi en novembre par les États-Unis.
Christophe Paget, aux États-Unis, Donald Trump dit préparer une rencontre avec Vladimir Poutine. Nous devons en finir avec la guerre en Ukraine, dit le président élu, qui est un véritable gâchis. Il a promis durant sa campagne de mettre un terme à l'agression russe en Ukraine en 24 heures. Aujourd'hui, le Kremlin se dit ouvert au contact avec Donald Trump sans condition préalable.
À l'actualité aux États-Unis, ce sont aussi ces incendies à Los Angeles. Les pompiers ne parviennent toujours pas à maîtriser les flammes.
Plus de 10 000 bâtiments sont partis en fumée dans la Cité des Anges. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées. Ces incendies sont les plus graves qu'a connu la Californie, dit Joe Biden. Ils ont fait au moins 10 morts. Des flammes alors que Los Angeles est confronté à une pénurie d'eau. C'est ce qu'explique David Blanchon. Il est professeur à l'Université Paris-Nanterre et spécialisé sur les questions de gestion de l'eau.
Le risque incendie est connu depuis très longtemps et il est récurrent. Il y a des réservoirs placés un peu en hauteur qui permettent de donner de l'eau aux pompiers quand ils en ont besoin. Et évidemment, quand il y a des feux exceptionnels, les pompiers utilisent ces réservoirs et ils ne peuvent plus aller accéder pour les remplir à nouveau. Et donc, quand les réservoirs sont vides, les bornes incendie sont vides et c'est ce qui se passe actuellement. Mais c'est plutôt une question de logistique plutôt que de pénurie générale dans la région. Et c'est un peu construit comme une utopie parce qu'ils construisent un peu en bois d'abord et en milieu de forêt, parce que ça rend le cadre de vie extrêmement plaisant, etc. C'est pas du tout adapté à la façon de construire Los Angeles, les maisons qu'on voit là à Hollywood, les palmiers, même c'est pas du tout une espèce locale, et c'est construit comme si on était en Floride ou dans le nord des États-Unis. Et on ne s'est pas du tout adapté au climat méditerranéen qui est celui de la ville de Los Angeles. Mais le marché fait que, effectivement, on prend ce risque avec une espèce d'utopie pas du tout adaptée au climat local.
Propos recueillis par Anne Verdaguer.
15h05 à Beyrouth, où affluent les messages de félicitations après l'élection du nouveau président Joseph Aoun.
Italie, Russie, France, même le Conseil de sécurité de l'ONU. Tous espèrent que son élection ouvre une page de stabilité pour le pays après 2 ans de vacances de la présidence. présence. L'actualité au Liban, c'est aussi l'extradition hier d'un intellectuel égypto-turc. Il a été conduit vers les Émirats arabes unis. Fils d'un important prédicateur des frères musulmans, il était aussi une figure de la révolution de 2011. Mais sa faute, cette fois, c'est d'avoir critiqué des régimes arabes qu'il considère complices d'Israël et de l'instabilité au Moyen-Orient. Alice Moreno.
Keffieh noir et blanc autour du cou, Al-Qaradawi se filme sur l'esplanade de la mosquée des Omeyyades à Damas en décembre, suite à la chute de Bachar al-Assad.
Qu'Allah aide le peuple syrien et ses nouveaux dirigeants pour faire face aux défis maléfiques complotés par le monde entier.
Puis il désigne les pays arabes qui, selon lui, représentent des obstacles à la liberté des Syriens.
Au sommet des conspirateurs, vous trouverez les régimes arabes honteux et les arabes sionistes, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte.
Suite à cela, il est arrêté à Beyrouth et les autorités libanaises viennent de le livrer aux Émirats arabes unis. Son avocat, Mohamed Soublou, alerte sur les risques qu'il encourt.
Nous disposons de documents qui prouvent que les Émirats arabes unis recourent à la torture et que des dizaines de personnes ont été soumises à des passages à tabac et à des actes odieux pour leur extorquer des aveux par la force. Nous craignons un sort similaire pour le poète Al-Qaradawi.
Il assure que son client n'a aucun lien avec les frères musulmans. L'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International alerte également sur la situation d'Al-Qaradawi. Alice Moreno, Le Caire, RFI.
Près d'un mois après le passage du cyclone Chido, Mayotte face à de nouvelles intempéries.
L'archipel est passé en alerte précyclonique. Aujourd'hui, la tempête tropicale Dikeldi devrait passer dimanche à 140 km au sud du territoire. Mayotte qui panse toujours ses plaies après le passage de Chido. À ce jour, le bilan fait état de 39 morts. Mais ces dernières semaines, toutes sortes de chiffres ont circulé. Les Kadis, figures religieuses musulmanes de référence sur le territoire, disent de leur côté ne pas avoir prononcé beaucoup de prières mortuaires. Correspondance à Mayotte de Lisa Morisseau.
Au lendemain du cyclone, les caddis ont été peu sollicités pour célébrer des prières mortuaires. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, comme l'absence de réseau dans les jours qui ont suivi Chido. Pourtant, dans l'islam, religion majoritaire à Mayotte, les morts doivent être enterrés dans les 24 heures qui suivent le décès. Le rituel de la prière mortuaire ne se fait pas nécessairement en présence d'un caddie. Il peut avoir lieu juste avec la communauté. Anouar Chanfi, chef de service au conseil cadial de Mayotte, estime que c'est ce qui a pu se passer après la catastrophe. À Kaweni, le plus grand bidonville de France, où l'intégralité des cases en tôle ont été détruites, il y a eu peu de prières mortuaires. Anouar Chanfi.
Le cadi de Kongou, qui habite à Kaweni, lui, personnellement, en demandant, il a eu 5 témoignages des gens qui ont fait la prière de mort. Et lui-même, il en a fait un aussi à la mosquée de vendredi. Donc on est sûr qu'il y a des morts, il y a des morts, il y en a eu sûr, certainement. Mais le nombre, Dieu seul le sait.
Pour consolider le bilan humain, la préfecture a lancé une mission de recherche des personnes disparues. Une équipe en lien avec les mairies, les forces de l'ordre et les cadis se rend dans les villages pour vérifier les rumeurs sur les disparitions. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Mayotte, où il est 16h08, 13h08 en temps universel. La suite d'RFI Midi, c'est avec vous Anne Gantner.
Merci Arthur Ponchelet. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain et d'abord au Venezuela.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Un pays verrouillé, une capitale quadrillée par des militaires pour une investiture contestée. Nicolas Maduro prête serment tout à l'heure sans avoir jamais publié les preuves de sa réélection alors que son rival, Edmundo González Urrutia, document à l'appui, revendique toujours la victoire à la présidentielle de juillet dernier. D'ailleurs, il a promis de rentrer de son exil espagnol aujourd'hui, lui qui avait fui la répression très dure, répression qui s'est encore accentuée ces derniers jours. Alice Campagnol, vous êtes notre correspondante à Caracas, vous êtes en direct. Quelle est l'ambiance ce matin au lendemain de manifestations de l'opposition ?
Bien, vous l'avez dit, hein, l'ambiance est extrêmement tendue, hein, surtout après les événements d'hier où on a cru à une arrestation de Maria Corina Machado, la chef de file de l'opposition. La sécurité est renforcée partout et on vient d'apprendre que la frontière terrestre avec la Colombie a été fermée, ainsi que l'espace aérien pour les vols qui viennent de cette destination. Donc c'est une décision unilatérale du Venezuela. Or, ce sont deux pays voisins qui échangent énormément, hein, toutes ces annonces sont de mauvais signaux. Ensuite, eh bien, Il y a eu beaucoup d'arrestations ces derniers jours. Un représentant d'une ONG très respectée, un ex-candidat à la présidentielle, des figures publiques importantes et la quasi-arrestation hier de Maria Corina Machado, interpellée à la fin de la manifestation puis relâchée. Le déploiement des forces de l'ordre est impressionnant, vous l'avez dit, hein, surtout dans la capitale. Les autorités sont sur les dents, elles craignent hein, des attaques de l'opposition ou tout simplement des manifestations comme celle d'hier qui ont eu lieu dans tout le pays. Certaines se sont terminées en affrontement hein, avec les forces de l'ordre. 16 personnes ont été arrêtées. Maria Corina Machado donc, était présente au rassemblement de Caracas. Elle n'avait pas été vue en public depuis août dernier. Et quand les gens l'ont vue, c'était l'hystérie. Hein. Elle est toujours aussi populaire. Et elle ne cesse de promettre qu'elle ira jusqu'au bout, qu'elle parviendra avec Edmundo González à prendre le pouvoir. Mais cela paraît vraiment très difficile.
À moins d'un coup de théâtre, c'est donc bel et bien Nicolas Maduro qui sera investi président aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Hein. L'opposition est très affaiblie par des mois et des années de répression, d'arrestations arbitraires, de démantèlement des partis politiques. Alors, dans ces conditions et avec le déploiement des forces de l'ordre dont je vous parlais, difficile hein, pour les opposants de faire respecter le vote du 28 juillet dernier, hein, qui, selon toute vraisemblance, a été remporté par Edmundo González. Pourtant, hier, dans la manifestation de Caracas, eh bien, les opposants continuaient d'y croire. Je vous propose d'écouter Maria.
Je suis là pour soutenir Maria Corina et Edmundo, notre président. Oui, il va venir, il va arriver avec une surprise pour tous les Vénézuéliens, parce que nous le méritons. On a affronté beaucoup de choses très difficiles et on s'est toujours relevé. Donc, on espère que d'ici demain, on soit libre.
Et je le rappelle, Nicolas Maduro, il a un avantage de taille, il a l'armée avec lui. Et si Maria Corina Machado et Edmundo González ont essayé de séduire les militaires en leur envoyant des messages, eh bien pour le moment, l'armée reste du côté du président en place.
Edmundo González, qui est en tournée en ce moment sur le continent latino-américain, il a été reçu par Javier Milei, le président argentin, par Joe Biden. Il s'est rendu aussi en République dominicaine et au Panama. Partout, il est accueilli comme le président élu. Mais avec Nicolas Maduro qui reste au pouvoir, qu'est-ce qu'il y a comme perspective pour la politique internationale ?
Bien, c'est pas très positif. Hein. Tout d'abord, Nicolas Maduro, il a perdu hein, son statut de leader des gauches latino-américaines avec cette répression, ce fort soupçon de fraude électorale. Ni Petro de Colombie, ni Lula, le Brésilien, ne seront présents aujourd'hui à son investiture. Or, ce sont des alliés historiques. Ces dernières années, Nicolas Maduro avait un peu regagné la confiance hein, de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, elle lui tourne le dos une fois encore. Désormais, cependant, la stratégie des pays européens, eh bien, notamment, n'est pas à l'isolement complet hein, du Venezuela avec des sanctions ou une rupture des relations. Non, les Européens cherchent à maintenir le dialogue avec les autorités. Je vous propose d'écouter Colette Capriles, sociologue du Foro Civico.
On peut avoir beaucoup plus de répression directement sur les gens, mais en plus, si il y a cette radicalisation du régime, il y a aussi un grand danger humanitaire. Parce que si on ferme les relations diplomatiques, si on perd ces relations de coopération avec l'Union européenne, avec même les États-Unis et d'autres pays de l'Amérique latine, en fait, il y a encore 7-8 millions de personnes au Venezuela qui ont besoin d'une aide alimentaire, humanitaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?
Et enfin, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. C'est la grande incertitude des semaines à venir. Un retrait des licences hein, des entreprises pétrolières qui ont été autorisées à travailler au Venezuela malgré les sanctions. C'est une possibilité, ce retrait. Et ça, ce serait un coup dur hein, pour l'économie déjà très mal en point hein, du Venezuela et une économie qui dépend presque exclusivement de son industrie pétrolière. Alors, est-ce que les locataires de la Maison-Blanche et du Palacio de Miraflores seront disposés à négocier ? Eh bien, 2025 nous le dira.
Alice Campagnol, en direct de Caracas, on suivra avec vous, bien sûr, cette cérémonie d'investiture. Vous nous le disiez, une grande partie de la communauté internationale tourne le dos à Nicolas Maduro, endosse la thèse de l'opposition selon laquelle Edmundo González Urrutia a bien remporté l'élection de juillet dernier. Ça rappelle un peu ce qui s'était passé lors de la présidentielle de 2018. L'opposant Juan Guaido, qui revendiquait la victoire, il avait même fini par s'autoproclamer président par intérim quelques mois plus tard. Ça n'avait rien changé, malgré le soutien de plusieurs pays. Mais pour Eva Paredes, coordinatrice du parti d'opposition 20 Venezuela, la situation n'est pas comparable.
C'est totalement différent. Totalement. Rappelons-nous que Juan Guaido était président par intérim. Alors que González Urrutia, lui, est président élu. Cela rend les choses totalement différentes. Il a été reconnu, comme le dit l'article 5 de notre Constitution, par la souveraineté populaire au travers du vote. 8 millions de procès-verbaux sont encore arrivés récemment et montrent une victoire éclatante, même dans ces lieux où Nicolas Maduro était censé l'emporter. Par exemple, dans le fort Tabacaré et dans d'autres bases militaires, Edmundo a gagné. C'est cela qui rend les choses différentes. Vous vous rendez compte de l'immense importance que ça a ? C'est une des choses qui rendent d'emblée la situation totalement différente.
Un des propos recueillis par Christophe Paget. La cérémonie d'investiture de Nicolas Maduro est prévue dans moins de 3 heures maintenant à Caracas.
RFI Midi, Anne Contner.
5h15 du matin à Los Angeles où les pompiers ont fait quelques progrès face aux incendies, mais 5 sont toujours actifs en tout début de journée et surtout on s'attend à de nouvelles rafales de vent qui pourraient relancer ces feux. Les dégâts sont considérables, 10 morts, plus de 9000 maisons ou immeubles réduits en cendres. Sur place, la désolation règne et la colère commence à poindre, comme on peut l'entendre dans ce reportage de Loïc Piala.
John Turtletaube marche dans les ruines d'une crèche de Pacific Palisades. Celle de ses 3 enfants. Les sièges des balançoires ont disparu, de petites flammes brûlent encore. Un choc pour ce réalisateur de grosses productions hollywoodiennes.
Beaucoup de gens disent que ça ressemble à un décor de cinéma, et c'est vrai que ça ressemble à des scènes de films à gros budget, mais dans ces films, ce sont toujours des effets spéciaux. Là, nous ne sommes pas dans un film, les films ne sont que des images en 2 dimensions.
Face à l'ampleur de la dévastation, beaucoup mettent en cause la gestion des autorités locales. Paul est l'un d'entre eux. Le jeune homme a perdu sa maison.
La sévérité de ces feux aurait pu être évitée de mon point de vue. Écoutez, c'est impossible d'arrêter tous les feux de forêt. Mais il n'y a eu aucun effort de prévention et il n'y a eu aucun plan stratégique pour des pare-feux. Je ne comprends pas. Ils connaissaient les dangers de cet épisode venteux et personne n'avait de plan apparemment. Il y aura un prix politique à payer pour ça.
48 heures après le départ du feu, le Palisades Fire continue de progresser, mais avec des vents moins forts. Les pompiers ont pu compter sur 2 Canadair. Les avions ont multiplié les allers-retours entre le Pacifique et les flammes. Loïc Piala, Pacific Palisades RF.
Et bien sûr, ces incendies immenses font toujours la une de toute la presse aux États-Unis. Vous l'avez lu pour nous, Anne Verdaguer. Et aujourd'hui encore, les journaux font la part belle aux photos et aux vidéos.
Oui, des images très impressionnantes à la une de la presse américaine avec des quartiers entièrement dévastés, des centaines de maisons réduites en cendres. Comme le montrent ces photos à voir dans le Washington Post, la skyline de Los Angeles engloutie sous la fumée des incendies et dont on distingue à peine le haut des immeubles, des rues où se sont engouffrées les flammes qui dévastent tout sur leur passage, des habitants qui aide les pompiers avec les moyens du bord, comme cet entrepreneur qui a pu protéger 9 maisons dans le quartier de Pacific Palisades avec son équipe d'ouvriers en se servant d'un long tuyau de fortune. Mais il raconte que les bouches d'incendie étaient très rapidement vides. Dans le Los Angeles Times, d'autres images montrent des amas de ferraille en bord de mer où l'on devine les vestiges d'anciennes maisons. À Malibu, seul un escalier se dresse, témoin de l'ampleur de ces incendies titanesques. Les habitants, eux, marchent hagards sur les bords des routes bordées par des carcasses de voitures calcinées. Certains tombent dans les bras de leurs voisins après avoir perdu le rêve de toute une vie, leur maison dévorée par les flammes. Il y a aussi les pompiers à l'œuvre épuisés, dont des centaines, comme le souligne Forbes, sont des prisonniers. Un programme de réhabilitation vieux de plus de 100 ans leur permet d'intervenir durant de grands incendies tout en purgeant leur peine.
En Haïti, Anne, la presse, elle s'alarme d'une nouvelle illustration de la capacité de nuisance des gangs avec la fermeture du port de la capitale sur décision du chef de gang Mykonos.
Oui, dans le Nouvelliste, on apprend en effet que le Caribbean Port Service, le principal opérateur du port de Port-au-Prince, a dû suspendre ses activités seulement 1 mois après sa réouverture, sous pression du puissant chef de gang qui contrôle la zone des plus grandes installations portuaires du pays, rappelle le quotidien. Celui-ci avait orchestré la tuerie collective d'une violence inouïe, perpétué il y a un mois dans le centre de Wharf Jérémy, tout près de Port-au-Prince. Il a ordonné l'exécution de plus de 200 personnes habitant dans les parages du port, rappelle le Nouvelliste.
On reste en Haïti pour retrouver nos partenaires du site Haïbopost, comme tous les mois. Haïbopost, c'est un site de référence connu pour son travail de terrain, pour ses reportages. Bonjour Junior Legrand.
Bonjour Gaëlle.
On va parler avec vous d'un article que vous avez consacré aux agents de la BSAP, la Brigade de Sécurité des Aires Protégées. Peut-être qu'on va d'abord revenir sur ce que c'est que cette brigade qui est rattachée au ministère de l'Environnement mais qui a pris beaucoup d'ampleur et gagné en influence depuis quelques années.
C'était une brigade qui était affectée à la surveillance au niveau des aires protégées. Mais justement, cette brigade, depuis quelques années, est prise dans la toile de fond de mouvements plus ou moins politiques. La BSAP, selon le directeur général actuel de l'ANAP, l'Agence nationale des aires protégées, qui coiffe la BSAP, donc en 2024, on a recensé 3 000 agents dans cette brigade de surveillance environnementale. Donc 3 000 agents reconnus par l'État, par l'administration publique. Mais il y a totalement une guerre des chiffres sur ce corps. Il y a aussi des personnes qui estiment que la brigade compte plus de 6 000 agents, donc soit la moitié de l'effectif de l'institution policière. Donc ça pose problème. Et justement, c'est une brigade qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Et une enquête d'Haïbopost sur quelques mois de cela a révélé que des agents de la BSAP avaient l'habitude de molester des individus qui se trouvent dans certaines villes de province. Donc c'est toute une machine de réprobation qui justement pointe la BSAP du doigt.
Voilà, il y a des accusations contre la BSAP, des accusations d'exaction, comme vous le dites, davantage d'influence, mais en fait assez peu de contrôle, que ce soit sur les méthodes de recrutement ou sur le processus d'armement des agents.
Justement, il y a des personnes qui ont été contactées par Haïbopost dans le cadre de cet article qui ont justement indiqué au journal que les méthodes de recrutement au sein de la BSAP sont rongées de lacunes. Il y a des agents qui désirent simplement légaliser des hommes. Il n'y a pas un système de recrutement qualitatif qui est mis en place pour que les agents intègrent la BSAP.
Cette question des armes de la BSAP, c'est vraiment un vrai problème selon plusieurs de vos interlocuteurs.
Oui, selon plusieurs de mes interlocuteurs, la question des armes au sein de la BSAP pose de sérieux problèmes. Il y a justement des lacunes. Il y a un agent avec qui je me suis entretenu il y a quelques mois qui m'a dit que la question de la paperasse habituelle, la question de il faut enregistrer l'arme au niveau des institutions policières, au niveau de l'armée, parce que en Haïti, il faut préciser, en Haïti, deux institutions peuvent légaliser des armes, c'est la police et l'armée. Donc il m'a dit qu'un agent de la BSAP peut se passer de cette question de paperasse. Donc, dès que vous intégrez la BSAP, vous êtes un chef et ce nouveau statut, disons, légalise votre arme.
Donc, des armes qui deviennent quasiment officielles, légitimes, pour ce corps qui a de plus en plus d'influence. Il y a même des tensions entre la BSAP et la police.
Oui, il y a des tensions dans certaines villes de province entre la BSAP et la police. Donc, n'oublions pas que la BSAP a été prise dans cet engrenage de croisade révolutionnaire de Guy Philippe, de l'ancien chef rebelle Guy Philippe, contre le gouvernement d'Ariel Henry, il y a quelques années. L'ancien chef rebelle a visité le canal de Wanamet et pour le sécuriser, il y avait des agents de la BSAP. Donc, la BSAP est prise dans la toile de fond de mouvements politiques depuis quelques années. Donc, vous avez un corps qui échappe à tout contrôle. Vous avez justement des agents qui font des exactions sur les gens. Vous avez justement des agents qui n'intègrent pas la BSAP par un système qualitatif. Donc ça pose véritablement de sérieux problèmes.
Je vous remercie beaucoup, Junior Legrand, d'avoir été en ligne avec nous pour parler de votre article intitulé « Des agents lourdement armés de la BSAP échappent au contrôle de l'État », c'est-à-dire sur le site haïbopost.com. Merci beaucoup.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
Retour aux États-Unis pour la dernière partie de votre revue de presse, Anne Verdaguer, avec cette décision choc de la Cour suprême. Elle concerne le président élu, dont le recours dans l'affaire Stormy Daniels a été rejeté hier.
Oui, Donald Trump va devenir le premier président élu de l'histoire des États-Unis à écoper d'une sanction pénale et à être un repris de justice, et souligne le Washington Post. La sentence tombera dans un peu plus d'une heure. Donald Trump, qui est accusé du paiement de 130 000 dollars à une star de film X qui affirmait avoir eu une relation sexuelle sexuelle avec lui en 2006. Le verdict sera symbolique selon le New York Times, qui parle d'une peine qui aura peu de conséquences concrètes et sera un fardeau négligeable sur les épaules du prochain locataire de la Maison Blanche.
Donald Trump, qui est apparu hier aux funérailles nationales de l'ancien président Jimmy Carter à Washington, apparu très proche de Barack Obama.
Oui, c'est une photo que l'on peut voir dans Politico qui parle d'un moment viral. Il y a en effet peu de circonstances qui auraient pu réunir ces deux hommes que tout sépare et qui sont tout sourire, en particulier l'ancien président Barack Obama qui semble éclater de rire lors d'un échange avec Donald Trump peu avant le début de la cérémonie à la cathédrale nationale de Washington. Un échange amical, souligne The Hill, après une longue rivalité. Dans une interview à Fox News, Donald Trump raconte « C'est vrai que nous avions l'air de deux personnes qui s'apprécient et c'est sans doute le cas », conclut-il.
Votre revue de presse, Anne Verdaguer, à retrouver sur notre site internet rfi.fr.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer françaises, et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique. Le protocole de lutte contre la vie chère reste bien d'actualité. C'est ce qu'a confirmé ce matin le préfet sur les antennes de la Première.
Invité de notre confrère Grégory Gabour, Jean-Christophe Bouvier s'est voulu très clair. Malgré les changements de gouvernement et de ministre, l'État a pris un engagement et il le tiendra. Écoutez le préfet de la Martinique.
La participation de l'État n'est pas suspendue, il faut faire attention. La participation de l'État se poursuit, d'ailleurs elle se poursuit actuellement avec le contrôle des baisses de prix annoncées par les distributeurs. Elle se poursuit avec les services administratifs du ministère des Outre-mer. Il nous faut maintenant procéder à des arbitrages. Ces arbitrages, ils nécessite qu'il y ait un gouvernement arbitrage sur le dispositif de baisse des frais d'approche et également vote de la loi de finances 2025 pour que la TVA soit retirée sur les 69 familles de produits. Une fois que cette loi de finances sera votée, la baisse de la TVA viendra s'imputer à la baisse déjà constatée et qui est les résultats de la suppression de l'octroi de mer, mais également de la prise en compte des efforts du port et des distributeurs qui baissent d'ores et déjà leur marge de distribution sur la base de la suppression de l'octroi de mer.
Direction maintenant l'île de Saint-Martin, la partie française bien sûr de l'île de Saint-Martin, avec une délinquance préoccupante en ce début d'année. Hier, deux personnes ont été tuées par arme à feu. Écoutez la correspondance pour la Première Guadeloupe de Hervé Pédurand.
Le drame a fait deux morts. Deux hommes tués en fin de matinée par arme à feu à Quartier d'Orléans dans des circonstances qui restent à déterminer. Plusieurs véhicules de gendarmerie et de secours se sont rendus sur place. On ignore encore si les victimes sont originaires du côté français ou de la partie hollandaise de Saint-Martin. Des gendarmes qui ont aussi en charge les investigations sur plusieurs affaires de vol à main armée, a commencé par le braquage d'un touriste américain de 63 ans dimanche soir, alors qu'il sortait d'un restaurant de Grand Caz. Il a été touché gravement par un coup de feu au thorax, transféré en urgence absolue au centre hospitalier de Marigot. Son pronostic vital n'est plus engagé. Ces faits interviennent en pleine saison touristique et à quelques jours de l'ouverture des mardis de Grand Caz, une fête commerciale annuelle sur le boulevard central. Les gendarmes, la police territoriale et le préfet se mobilisent face à cette vague de violence néfaste pour l'image de l'île et qui peut menacer la principale activité économique, le tourisme.
Hervé Pédurand, correspondant à Saint-Martin de la Première Guadeloupe. Bon après-midi, bon week-end Anne.
Merci.
À lundi.
Merci Benoît Ferrand, à lundi. On va écouter un peu de musique avant de se quitter avec Criolo, le Brésilien, le rappeur à découvrir dans la playlist RFI en ce moment.
Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato e de um bosque em flor, de Tiabarabum. de noite, bada bobada, e assim nós vamos vivendo de amor.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi, 11h30, temps universel. Et pour l'heure, c'est Catherine Fruchon-Toussaint que vous retrouvez pour son émission Littérature sans frontières. Elle reçoit aujourd'hui l'écrivaine Marie-Reine de Jam. Très bonne journée à tous.